France Inter.
Évidemment. Laissez-moi vous dire que non, parce que, excusez-moi, chers auditeurs, chères auditrices, évidemment aussi, hein, puisque je rappelle qu'on est woke, à la flûte à bec. Un de mes candidats aujourd'hui était en train de lorgner sur la flûte qui a gagné aujourd'hui. Non, mon gars, tu partiras pas comme ça avec la flûte. Je te précise qu'il faut répondre à toutes les questions de Zikmu. Vous êtes bienvenus à tous dans le nouvel épisode de Qui veut gagner la flûte à bec, une émission où, ben voilà, vous connaissez les règles au bout d'un moment. Je pose des questions de musique à mes candidats qui sont là, et un seul des quatre qui sont là autour de ma table aujourd'hui, eh bien, s'en repartira aujourd'hui avec une flûte. Et je peux vous dire déjà qu'ils ont les mains moites en regardant ma flûte. Je me tourne tout de suite vers la première de mes invités. Elle est autrice de Joséphine de Culotté et aussi dessinatrice de Sacrée Sorcière de Roald Dahl. Je peux vous dire que si ce jeu s'appelait Dessiner c'est gagner, ben elle aurait déjà gagné et on pourra aller manger déjà dès maintenant, parce que pour elle, dessiner, c'est vrai que c'est son métier. Vous lui demandez de dessiner par exemple une maison, ça ressemble à une maison, parce que moi, vous me dessiner une maison, bah, ça va ressembler à un cheval. Merci d'être là, Pénélope Bagieux.
Merci.
C'est un vrai plaisir.
Merci pour cette très belle intro.
Eh ben oui, et en plus, je vous ai demandé quelle était votre actualité avant de préparer cette émission. Vous m'avez dit
pas. Toujours n'est pas.
Pas d'actu.
C'est l'été, hein, pas d'actu.
C'est les vacances. Et merci justement de faire un trou dans vos vacances pour venir dans cette émission. Et vous n'êtes pas venu seul, finalement, parce que vous êtes venu, si j'ose dire à deux, vous êtes venu avec monsieur. Hein. Monsieur, c'est le guitariste le plus connu d'Internet. Et je peux vous dire que sur mon compte triple, son nom permet de faire un carnage au Scrabble. Il a des beaux cheveux, il joue bien de la guitare, il sait même faire des barrets. C'est vraiment le profil du gars sur l'été, sur la plage en été, vraiment, qui est le gars. Je suis là, excuse-moi, mais toi, tu es énervant avec ta guitare sèche. Merci d'être venu, Wax.
Merci beaucoup. Meilleure intro.
Wax, donc grand guitariste internet, on voit de nombreuses vidéos. Vous venez de sortir un single que vous avez produit pour la chanteuse Pomme. Vous serez également dans quelques jours au Francofolie de La Rochelle.
Exactement, le 12 juillet.
Le 12 juillet au Francofolie de La Rochelle. Je me tourne vers notre autre invité. Lui, vous l'entendez souvent dans Zoom Zoom Zen et on le croise sur toutes les scènes de Paris et de partout en France, puisque c'est un brillant comédien stand-up. Il fait partie de cette longue liste de mots qui prennent un X au pluriel, comme chou, caillou, hibou, chou. C'est mon troisième invité. Le très singulier Pierre Thévenoud. Bonjour Pierre.
Salut Thomas, salut tout le monde.
Grande joie de vous recevoir.
On se vous voit, oui, bien sûr.
Mais on peut se dire nous, si vous voulez.
Voyons-nous.
On peut se nous noyer.
On s'envoie des quilles de rouge après les spectacles à Besançon.
En se tutoyant.
Là, on se vous voit. Quoi,
on se vous voit, évidemment, parce que là, il est 11h du matin sur l'antenne de France Inter. Je me tourne vers ma quatrième invitée. Elle est née d'un père espagnol et d'une mère belge. Si c'était un plat, ce serait une paella avec des frites. Et c'est une véritable visionnaire, puisqu'elle s'est fait dégager de France Inter avant que ce soit la mode.
Et ouais.
Elle a également fait un spectacle. Elle a fait un spectacle pour parler de sa maladie parce qu'elle est humoriste et autiste. Elle est donc humotiste. Enfin, je ne sais pas si on la gardera. Peut-être qu'on va la couper au montage. Merci d'être là avec nous, Florence Mendes.
Mais merci beaucoup.
Florence, vous êtes également en tournée. Vous jouez votre spectacle tous les mardis au Métropole à Paris jusqu'à la fin du mois de juillet.
C'est ça, jusqu'à ce que je me fasse dégager aussi.
Du Métropole aussi, hein, profession dégagée.
Voilà.
Merci d'être venue. Alors, petit rappel des règles pour les invités. Je pose des questions de Zikmu. Vous êtes tous équipés, toutes et tous équipés d'un buzzer. Pénélope Bagieux, faites retentir le buzzer qui est le vôtre. Wax, le buzzer de Pierre Thévenoud. Et enfin, Florence. Donc je vous pose des questions, à partir de là, quand vous pensez avoir la bonne réponse, n'hésitez pas à buzzer, et puis voilà, bah, je vous pose des questions, si vous n'avez pas la réponse, n'hésitez pas à délirer, à improviser, à envoyer vraiment plein de bonnes vannes. Jouons tout de suite à Qui veut gagner la flûte à bec.
France Inter, Thomas VDB, Qui veut gagner la flûte à bec.
Donc là, on est en train d'écouter un artiste brésilien qui fait partie de la fine fleur du mouvement tropical, qui a sorti un album qui s'appelle Estudando o Samba, dont on écoute un extrait. Cet artiste s'appelle Tom Zé. Et d'ailleurs, si vous écoutez bien, je trouve que c'est quand même un morceau dans lequel on a énormément l'impression qu'il appelle quelqu'un qui s'appelle Patricia Louvo. Écoutez bien, vraiment. Je sais pas. C'est quand même assez difficile d'avoir un morceau. On a plus l'impression qu'ils appellent quelqu'un qui s'appelle Patricia Louvo. Et donc, il faut savoir qu'avec son précédent album, Tom Z, son album s'appelait Todos Os Hoyos, beaucoup de gens se posèrent des questions sur ce que représentait la pochette de son album et qu'il s'agissait en fait d'une partie de son anatomie. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la particularité de la pochette de l'album de Tom Z dans laquelle qui représentait une partie de son anatomie? Quelle était la partie d'anatomie qui était prise en photo par Tom Z?
Le coude.
Ce n'est pourquoi cette réponse? Justifiez-vous.
Parce que si vous prenez une cuillère à soupe et que vous la mettez comme ça sur votre coude, c'est assez rigolo. Ouais, je dis comme ça sur votre coude alors qu'on est à la radio, mais ça peut. Vous pouvez voir vos fesses. C'est rigolo, ça fait la forme des fesses.
Alors c'est pas exactement ça.
Est-ce que le mot est proche?
On se rapproche un petit peu. Est-ce que le quoi?
Le mot est proche.
Le mot n'est pas proche. Par contre, elle a dit un truc qui se rapprochait de la bonne réponse dans la deuxième
c'est
partie.
C'est ça, c'est illusion d'optique.
Alors, Pierre Thévenoud.
Ah non, bah j'allais tenter son bras, mais amputé, parce qu'il s'est fait manger par un truc et il montre son bras amputé en photo.
Alors, vous décidez de réinventer l'histoire de
qu'est-ce
Tom Z.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance?
Mais je sais pas, je le tente.
On peut poser une question pour affiner?
Mais on peut poser des questions.
Est-ce que c'est une partie de son corps qui est, on va dire, globalement, habituellement recouverte d'un slip?
Elle est habituellement recouverte d'un slip.
Alors, ce sont ses fesses.
Ce sont ses fesses zoomées à l'intérieur. Il s'agit
donc
tout simplement.
Plus les fesses,
alors, c'est car parlons du trou de balle, du trou de balle. C'est le trou de balle de Tom Z. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'on était en pleine période de la dictature et il s'est dit tiens, je voudrais faire un truc parce qu'habituellement à l'époque tout était censuré. Il s'est dit je vais faire un truc qui va être censuré, mais qui devrait être censuré normalement, mais qui va être tellement zoomé qu'en fait il ne pourra pas reconnaître. Mmh. C'est une façon de montrer son cul à tout le monde sans que les gens sachent qu'il est en train de montrer son cul.
Et quand on regarde la pochette, on le voit.
Eh ben, on comprend pas. On se dit c'est quoi? C'est un œil? On ne comprend pas. On
ça a inspiré beaucoup de mairies en France qui ont aussi un portrait de trou du cul comme ça au-dessus. Oh.
Alors ça, c'est vous qui le dites. Franchement, je ne sais pas à quoi vous engagez. Florence Mendez, je rappelle le nom de la personne qui vient de dire cette phrase. C'est donc un point pour Pénélope Bagieu qui repart déjà avec un petit morceau de flûte. C'est l'équivalent d'un petit morceau de flûte.
Pardon, mais j'ai quand même vachement participé à ce point,
c'est vrai.
Pénélope.
C'est vrai. Le slip, c'est vraiment ça qui a...
En même temps, c'est vrai qu'il suffisait de faire le tour un petit peu trop de toutes les parties du corps et à un moment, on finissait par trouver
la
bonne
réponse. Oui, c'est ça. Ça diminuait ma victoire.
Et donc voilà, c'était donc une photo du trou de balle de Tom Z.
Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground.
Sting. Sting, exactement. En duo avec Eric Clapton pour la bande originale de L'Arme Fatale 3. Parce qu'à l'époque, il leur avait dit « Vous êtes connus tous les deux, c'est bien que fassiez un morceau ensemble, de façon à ce qu'on vende pas mal de disques de la bande originale. » Ce morceau, quand on écoute le titre au début, on entend un son tout particulier qui donne la rythmique du morceau. Pouvez-vous me dire l'objet avec lequel Eric Clapton donne la rythmique du morceau? On peut remettre le morceau au tout début, peut-être? C'est pas...
Une cuillère?
C'est pas une cuillère.
Encore une cuillère? J'ai un truc avec les cuillères.
On peut le réécouter?
Ben là, on l'entend, là.
On l'entend, là?
Ouais.
C'est un briquet?
C'est un briquet, exactement.
Un briquet Zippo.
Wow. Bonne réponse de Wax, exactement. C'est le Zippo d'Eric Clapton. Parce qu'il faut, je sais pas si vous connaissez l'histoire, peut-être ça vous intéresse pas du tout d'entendre.
On adorerait.
Alors, ben voilà, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est que Sting et Eric Clapton cherchaient une idée pour cette chanson. Ils étaient en studio tous les deux, et pendant ce temps-là, Eric Clapton, il était en train de jouer avec son Zippo. Parce que normalement, c'est vrai, quand on est un musicien pas connu, on essaie quand même de trouver les idées avant de louer le studio, parce que on se dit idéalement, on va pas payer des heures de studio à se branler la nouille, à jouer avec notre Zippo. Et puis, ben, finalement, lui, il a eu un éclair de génie si on devait faire un morceau avec le Zippo.
Très bonne idée, très bonne anecdote.
Et surtout, ben, bonne bande originale qui s'est vendue quand même à plusieurs millions.
Ils ont fait un groupe qui s'appelle Led Zippo. Voilà.
Led Zippo.
Oui, il fallait essayer. Bon.
Ah, ben, elle a été essayée, on peut la dire, celle-là, en tout cas. Merci. Est-ce que, alors, je sais que vous passez beaucoup de temps vous-même en studio, Bax, parce que en tant que vous êtes le seul musicien de la bande, finalement.
Je crois.
Il y a un désavantage, là.
Ouais, je passe beaucoup de temps en studio, ouais, bah, j'y passe ma vie en fait, globalement. Et effectivement, des fois on a des idées comme ça. Alors, bon, le Zippo, on l'avait jamais fait, mais des fois ça peut arriver d'avoir des idées un peu bizarres. Ouais.
Et aussi, ils s'en vantent pas. Il est souvent en studio et surtout, il imite vraiment très très bien Sting.
Ça c'est vraiment le moment idéal, pardon, bah, si on veut vraiment l'imitation de Sting là tout de suite. Et vraiment pas raté, vraiment.
Non, en fait, j'imite Jimmy Fallon qui imite Sting. Donc c'est comme les gens qui imitent Johnny,
ils imitent le Johnny des Guignols.
Voilà, exactement.
Okay. Alors comment Jimmy Fallon imite Sting?
Alors, c'est... vraiment personne ne le reconnaît à part Pénélope, mais c'est...
Oh, I can feel my faith when I'm with you.
Voilà. Jimmy Fallon imite très mal Sting.
C'est de la faute à Jimmy Fallon, vraiment.
Peut-être que vous imitez bien Jimmy Fallon qui imite mal Sting, en tout cas.
Je crois que c'est ça.
Eh bien, voilà, en tout cas, deux points pour le couple Wax Pénélope Bagieu. Pas du tout l'enfer. Vous êtes sur le point de repartir avec une flûte en fin d'émission. Wax et Pénélope Bagieu. Alors, je pense que c'est un morceau que vous avez tous déjà entendu.
Non.
Je regarde. Pierre Thévenoud, effectivement, une moue qui veut dire non. Avant même que vous disiez non, à la tête que vous faisiez, je suis là, oh, il connaît pas. Et peut-être même qu'il n'a pas envie d'être là. Alors, ce morceau qu'on est en train d'entendre, c'est un morceau qui date de 1968. C'est un des plus gros tubes issus d'Australie d'un groupe qui s'appelle The Easy Beats. Et le morceau s'appelle Friday on My Mind. Ça veut dire, je pense à vendredi. C'est vrai que c'est un peu comme tous les morceaux de tous les collégiens qui faisaient des titres dans les années 60, genre samedi soir on va s'éclater. C'est un peu l'équivalent de on a envie d'être au week-end pour s'amuser. Ce musicien, le musicien principal des Easy Beats qu'on a écouté, il est également le frère de plusieurs musiciens d'un autre groupe australien mythique. Pouvez-vous, il est surtout le frère de plusieurs de plusieurs membres d'un groupe australien mythique. Pouvez-vous, c'est un véritable retentissement de flûte.
Angus Young et Malcolm Young d'ACDC. Oui,
c'est le frère.
Putain, mais moi j'avais buzzé avant. Pourquoi tu réponds à moi? J'avais dit Bee Gees, quoi.
Ah non, c'est moi qui ai buzzé avant. Oh, alors là, je veux tout savoir.
Elle existe à la flûte à bec, cette version?
Alors, je m'essaierai pas à jouer à la flûte à bec. C'est une reprise de Steven Seagulls. Donc c'est Steve et les Goélands, donc de Thunderstruck. C'est un groupe de country finlandais, voilà, qu'on entend, qui reprend Thunderstruck de AC/DC. Et donc effectivement, c'est bien George Young qui est le grand frère de Malcolm et Angus Young d'AC/DC.
Et d'ailleurs, savais-tu qu'il les avait produits? C'est le producteur
du premier album d'AC/DC, TNT, si je ne m'abuse, un truc comme ça. Et effectivement, ça va être un peu bizarre d'être le grand frère, de faire un single et après ça marche plus trop, et d'avoir deux petits frères, et pour eux, autant dire que ça cartonne. Je pense que les dimanches midi à table, ils doivent être un peu d'univers du jaloux. Ouais. Peut-être.
Mais ce qui est fou, c'est que même encore aujourd'hui, quand ils parlent de lui, ils disent que c'est leur modèle, que c'est genre le plus brillant des musiciens qu'ils ont jamais rencontrés, etc. Alors que bon, effectivement, Easy Beats n'ont pas fait une carrière comme ACDC, quoi.
C'est vrai. D'ailleurs, Pierre, on partageait le même avis là-dessus.
Ouais. Tu peux déjà lui prédonner la flûte à bec. Hein.
Ouais,
je pense qu'on n'arrivera pas.
Florence Mendes et Pierre Thévenoud, vous étiez en train précisément de ne pas parler.
Ouais.
C'est exactement ce dont vous n'étiez pas en train de parler. La réponse à cette question. 2 points pour Wax, 1 point pour Pénélope et toujours 0 point pour Pierre Thévenoud et Florence Mendes. On enchaîne. Alors, est-ce que tout le monde, c'est un secret pour personne cette chanson là, ça se regarde un peu, il y a personne qui dit Florence Mendes, vous connaissez
Mais moi étant née avant Jésus-Christ, enfin après Jésus-Christ, je ne connais pas cette
Alors,
cette
on écoute le générique de XOR, qui est une série japonaise assez mythique des années 70-80, enfin popularisée en France dans les années 80, mais je crois que ça a été tourné un petit peu plus tôt au Japon. Donc c'était quelque part entre Sankukai et Bioman, hein, on est d'accord. XOR qui est la première série aussi à avoir le nom d'une cérémonie de récompense pour film porno. Ça, je ne sais pas si on va le garder, mais voilà.
En tout cas,
alors, c'est vrai que les paroles.
Pas du tout,
les paroles. C'est vrai que c'est dur de moins croire à une blague qu'on est en train de faire que comme je viens de la faire. Les paroles françaises de générique sont signées d'un certain Paul Persavon. Et comme celle de beaucoup d'autres d'ailleurs, parce que Paul Persavon, il a signé aussi le générique de beaucoup de dessins animés de l'époque.
Bernard Minet.
Cobra, c'est pas Bernard Minet.
Je suis sûr que tu l'as.
Il a signé Cobra, il a signé L'Empire des Cinq ou L'Île au Trésor. Quelle célébrité se cache derrière le pseudonyme de Paul Persavon? Pierre Thévenoud.
Didier Barbelivien.
Pas du tout. Ça aurait pu, mais c'est bien, mais il essaye. Ce qui est bien, c'est un peu con, c'est d'essayer. Comment?
Jean-François Porri, l'homme aux mille pseudonymes.
Ah putain, je crois que
c'est Jean-Luc Azoulay.
Non, pas je sais.
Mais oui, c'est la même personne.
Non, mais c'est un mec pas du tout. C'est un mec connu, mais tu te dis pas du tout qu'il a fait ça.
Alors, je vais vous donner un indice. Il a souvent parlé dans le micro qui est juste là. Et il est possible d'ailleurs que la bonnette sente encore sa salive. C'est vraiment.
Il est encore c'est aujourd'hui.
Est-ce qu'il est encore dans la radio? Jean-Jacques Debout.
Pas vraiment, mais il est vivant, complètement vivant. Il était jusqu'à il y a
mais
pas si
longtemps. Mais vivant de ouf
Patrick
ou vivant
Cohen.
Vivant de ouf. Vivant de ouf.
Patrick Cohen.
Il est également fan. C'est pas Patrick Cohen. Il est également fan de Magma.
Il est fan de Magma. Donc c'est quelqu'un qui est.
Antoine Decaune.
Antoine Decaune. Oh, très bonne réponse. De Pénélope Bagieux.
Putain,
c'est lui qui a écrit ça.
Sous le pseudonyme de Paul Persavon, entre 1983 et 1986, Antoine Decaune est l'auteur de plusieurs versions françaises de génériques de dessins animés pour Antenne 2 et TF1. Donc l'Empire des Cinq, Clémentine, Cobra, Clémentine. Les Quatre Amis, L'Île au Trésor. Et
pardon, j'ai... Incroyable.
La SACEM qu'il a dû gratter avec tout ça.
On n'en parle même pas, mais je pense qu'il nous écoute, là, il est vraiment en train
de se cronter les orteils. Parce qu'il y avait une légende urbaine qui chantait le générique de Cobra. Et donc, ça partait de là, je pense. Moi, toute mon enfance, j'ai entendu dire, ouais, tu sais, en fait, le générique de Cobra, c'est Antoine Decaune qui chante. Et on ne savait pas du tout. Et en fait, il l'a écrit.
Et alors, il l'a écrit, et peut-être même qu'il l'a chanté, j'en sais rien exactement, faudrait lui demander.
Il y a tant de mystères sur cette planète.
Alors, j'ai beaucoup d'amitié pour Antoine Decaune. Je ne sais pas si le pseudonyme que j'aurais choisi, ça aurait été celui de Paul Persavon. Qui est quand même. Est-ce que vous avez déjà utilisé un pseudonyme, Florence Mendès?
Alors, oui, mais c'était sur Caramel, donc je ne le dévoilerai pas.
C'était
très bien. Ok. Ouais. Bon, on a une vague idée de ce que c'était, alors si c'était sur Caramel.
Non, pas du tout. À l'époque, j'apprenais l'elfique, donc ça devait être Arwen. Je râlais beaucoup parce que Arwen était déjà pris, donc j'ai dû prendre Arwen 9502, ce qui était vraiment moins.
C'est vrai le truc de l'elfique ou c'est genre une.
Non, c'est vrai.
Ah ouais, temps libre quand même.
Bah, je suis autiste, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Tout s'explique.
J'avais fini de me balancer ce jour-là, il fallait que j'occupe ma journée autrement.
Mais toi, Thomas, est-ce que tu as déjà eu un surnom?
Est-ce que j'ai déjà eu un surnom? Enfin,
un pseudonyme.
Un pseudonyme.
Bah, déjà VDB,
un peu, on va dire. Ouais, c'est un peu nul comme ça.
T'as pas eu un truc?
J'ai pas souvenir d'avoir utilisé. Peut-être sur Caramel aussi. Peut-être sur d'autres sites interlopes.
Tu as écrit des chansons sous pseudonyme?
Peut-être. C'est possible. En tout cas, je rappelle toujours donc le score. C'est Pénélope Bagieux qui est en train de mener haut la main avec 3 points déjà. 2 points pour Wax. C'est vraiment loin, loin derrière. Eh bien, Pierre Thévenoud et Florence Mendès qui se demandent tous les deux ce qu'ils fabriquent ici. Vous êtes sur France Inter en train d'écouter qui veut gagner la flûte à bec. On écoute tout de suite la question suivante. J'avais oublié qu'il y a Jean-Claude qui arrivait avec ses bongos. Alors, on écoute actuellement Steve Tur. Je sais pas comment ça se dit. T-U-2-R-E, ça s'écrit. Steve Tur, c'est un tromboniste de jazz américain qui est connu pour avoir été membre dans les années 80 du Saturday Night Live Band, l'orchestre de la célèbre émission comique américaine qui était diffusée tous les samedis soirs. Voilà. Et donc, Steve Tur, il est également très connu pour exercer son talent sur un instrument avant très naturel. Celui-ci est peu commun. Pouvez-vous me dire quel est l'instrument avant sur lequel joue Steve Tur régulièrement? Pierre Thévenoud.
Il joue du coquillage.
Putain, c'est exactement ce que j'allais dire.
C'est la bonne réponse.
Incroyable.
De Pierre Thévenoud.
Mais oui.
Balance la flûte.
J'arrive. Mais alors, mais comment vous avez deviné tout de suite?
Parce qu'il y a que ça, un truc naturel. Je me suis dit, c'est pas un truc de prout et tout quand même. L'autre, il est sur France Inter, il monte un peu le niveau.
On a commencé avec une question sur un anus quand même.
Mais bon. Non, mais j'avais vu genre à Hawaï, il y en a. Tu sais, je sais pas, dans les gros coquillages, ils font des trucs avec quoi.
Ah, t'es parti à Hawaï toi.
Je sais pas pourquoi, j'ai une vidéo d'un clip à Hawaï d'un mec qui souffle dans un coquillage. Alors, l'enterrement de Israël Kamakawi, le gars qui faisait Somewhere Over the Rainbow.
Merde.
Ah ouais, okay.
Me demande pas comment ça s'est connecté dans le cerveau, j'ai vu ça. J'ai vu un mec souffler dans un coquillage.
Alors, exactement.
J'avais ça, ouais, un foie de bœuf. Tu sais, hein.
Souffler dans un foie, non, je pense que c'est la cornemuse. La cornemuse, c'est un peu ça, je crois. Mais c'est les, des panses de c'est fabriqué avec
les
des
cours
panses
de science, je me souviens, on était réussi en soufflant dans une des. Je sais plus, on avait. Et c'était peut-être un cœur. Je voulais que je parte, oui, je comprends.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Wax, on m'a dit, donc effectivement, là, il joue sur dans une conque, et on m'a dit, Wax, que vous étiez propriétaire d'une guitare qui était fabriquée à partir de la peau d'une tortue des Galapagos, qui a été tuée sous vos ordres pour la fabrication de la guitare. Et alors, ça, est-ce que vous confirmez cette anecdote?
Non,
ça,
je la déconfirme.
Ah oui, c'est ça, j'étais assez étonné.
C'est sur Wikipédia, ils s'amusent à mettre des trucs comme ça. Mais non,
j'avais du mal à vous imaginer donner des ordres aux gens au Galapagos.
C'est sur ta fiche Wikipédia, il y a ça
décrit. C'est de la fake news 100% VDB.
Mais est-ce que vous avez des trucs sur Wikipédia? Parce que moi, j'ai eu des trucs comme ça sur Wikipédia, comme quoi je faisais du parachute.
Ouais, saltimbanque. Moi, j'ai le saltimbanque amateur.
Marqué parachute.
Somnambuliste amateur, moi, j'ai.
Ah ouais, mais vraiment des gars qui sont là.
Non, comment s'appelle le gars qui marche sur un fil et qui.
Funambuliste.
Somnambuliste.
En tout cas, bonne réponse de Pierre Thévenoud. Rappel des scores 3-2-1. Florence Mendes, toujours loin derrière. Je vous propose d'écouter tout de suite un petit morceau de playlist, mais de vous préciser, chers auditeurs, que vous pouvez réagir sur cette émission avec le hashtag Flutabec sur Twitter, FLUTEABEC. Le morceau de playlist qu'on écoute tout de suite, bah, c'est tout bête, c'est un morceau de Johan Papa Constantino. Hein, et ce morceau, il s'appelle Mode d'emploi. Vous êtes sur France Inter.
Qui veut gagner la flûte à bec? Thomas VDB.
Toujours avec mes invités Pénélope Bagieux, Wax, Pierre Thévenoud et Florence Mendes pour gagner une flûte à bec. Je vous propose d'écouter la question suivante. « Je n'ai pas besoin de vous préciser qu'on écoute donc un morceau d'Oasis qui s'appelle Don't Look Back in Anger. Oasis avec Liam et Noel Gallagher qui se sont clairement chamaillés, dont on attend toujours potentiellement la reformation. Alors comme vous le savez, pour un des plus grands groupes de rock anglais des 30 dernières années, Oasis, et dans le rock anglais, comme dans tout le rock en général, il y a toujours des groupes de reprises. Par exemple pour les Beatles, il y a les Rabbits. Vous savez, il y a les gars, ils mettent juste des coupes au bol avec des vestes et ils jouent, et les Beatles, on, on dirait vraiment les Beatles, tout ça parce qu'ils ont des coupes au bol. Et bien pour Oasis c'est pareil, il y a un groupe de reprises d'Oasis français qui s'appelle Osiris. Êtes-vous en mesure de me dire le nom de la célébrité française qui fait partie?
Éric Dimeco.
Éric Dimeco.
Mais non, c'est incroyable.
La vote, le bah attends, mais comment?
Mais c'est qui?
Mais parce que je suis un gros beauf qui écoute le Super Moscato Show et c'est une émission sur RMC.
Ah d'accord. Le Super Moscato Show, donc une émission.
Et Éric Dimeco, il est chroniqueur dedans.
Ok.
Et il en profite à chaque émission pour faire clairement la pub pour ses concerts avec son groupe de reprise.
Ah, et il fait quoi dans le groupe?
Il est bassiste.
C'est le bassiste.
Il est bassiste d'un groupe qui s'appelle Osiris, qui ne font que des reprises d'Oasis.
Et grâce à lui et sa notoriété, ils arrivent à faire des salles vraiment pas mal. Et genre, les gens qui viennent, c'est genre à la base des fans de foot ou de radio,
ouais,
qui viennent
foot,
voir
Oasis.
Des gars faire Oasis avec Dimeco, avec son maillot de l'OM qui fait de la passe, quoi.
Ouais, parce qu'en dehors du fait qu'il soit chroniqueur, c'était un footballeur professionnel de haut niveau.
Ouais, avec l'OM, c'est genre une légende de Marseille, quoi. Ouais.
De légende de Marseille de l'époque de Papin et Basile Boli, je crois.
Ouais, ils ont gagné la. Alors, je suis pas moi-même spécialiste de foot, hein, mais il a gagné la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions avec Marseille, quoi.
Ok, d'accord. Éric Dimeco, bonne réponse de Pierre Thévenoud. Alors, je pensais vraiment que vous alliez galérer à trouver cette réponse. Effectivement, le footballeur français qui est bassiste de ce groupe de reprises d'Oasis. Vous les reprises, c'est vraiment. Vous diriez que les reprises Wax, je vous pose la question à vous parce que c'est vraiment. Est-ce que c'est. Vous diriez que c'est votre métier à la base de faire des reprises? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même surtout des reprises que vous avez fait. Là, vous avez produit le single de Pomme,
ouais.
Mais à la base, c'est quand même sur Internet. Quand vous faisiez fanzine, c'était régulièrement des reprises que vous faisiez
Ouais. Alors, je me suis fait connaître en faisant des reprises, mais je pense qu'on n'est jamais. Enfin. Faire des reprises, c'est pas du tout un métier.
C'était un peu vexant votre question.
Pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire.
Non, mais parce que j'ai découvert Wax surtout avec les reprises qu'il faisait avec tous ses invités. Parce que
mais par exemple, il y a plein d'artistes que moi j'adore, genre Jimi Hendrix, que j'ai connu parce qu'il a fait des reprises de Bob Dylan, par exemple, etc. Donc je prends pas mal ça. Mais c'est se dire que c'est un métier, c'est encore autre chose.
Oui,
mais...
ça fait musicien de bal.
Et puis même ça fait un peu prétentieux, comme si j'avais un peu le truc de savoir comment bien reprendre une chanson, alors que non, je trouve que c'est un métier aussi d'en composer.
Bien sûr.
mais je prends pas du tout mal. Je suis en train de m'enfoncer là.
C'est maintenant, c'est bien. Vous êtes encore au même niveau. Tout le monde va très bien. Question suivante. Là, ça envoie.
Ça aussi, à la flûte à bec. Grand moment.
Alors là, évidemment, on a évidemment très envie de faire la fiesta en écoutant cette musique.
Ah oui.
On est clairement dans un univers de musique classique. On écoute actuellement Jean-Sébastien Bach.
C'est un grand déconneur.
Qu'on embrasse, évidemment, Jean-Sébastien. Pouvez-vous me dire dans quelles circonstances particulières Jean-Sébastien Bach a-t-il composé en novembre 1716, et non pas octobre, hein, comme les gens ont souvent tendance à le dire,
ah oui.
Les 46 chœurs du petit livre d'orgue dont est extrait le morceau qu'on vient d'écouter, Die Armut so Gott auf sich nimmt. Dans quelles circonstances donc a-t-il composé ce morceau?
La mort de quelqu'un qu'il connaissait.
Non, mais c'est une bonne tentative, Pierre Thévenoud. Wax.
Est-ce que c'est dans un lieu?
C'est dans un lieu, c'est dans un lieu. Ça, c'est une bonne question qui permet. C'est pas aux toilettes.
Ah oui, bien vu.
Dans sa baignoire.
Ça n'est pas dans sa baignoire.
C'est à l'hôpital.
C'est pas à l'hôpital.
Attends, oui, c'est bien le jeu des questions, là.
Ouais.
Toi, t'es un meneur d'enquête.
Bien,
toi, tu mènes les enquêtes et nous, on te pique la réponse.
Ouais. Est-ce que c'est un lieu que nous, on aurait pu visiter ou qu'on peut avoir chez nous?
Il était en tôle.
Bonne réponse de Florence Mendes, exactement.
Joué. J'aurais été très curieux de savoir comment t'allais répondre à ma question.
Eh ben, j'étais là, peut-être que je l'ignore, peut-être que j'ai déjà fait 5 ans de prison, Wax, je ne sais pas.
Mais qu'est-ce qu'il faisait en prison?
Alors, pourquoi il était en prison? Parce qu'en 1716, Bach, il a décidé de quitter son poste de premier violon à la chapelle du duc de Weimar. Mais ça, on en parle souvent avec
Pierre Thévenoud. Mais quel vandale.
Pour aller occuper une fonction de maître de chapelle mieux rémunéré à Cotton. Et ça, bon, ça, c'est vrai que
ça,
c'était
dans
sa vie. Mais le problème, c'est que son employeur du moment, le duc de Weimar, il a pris ça comme une trahison et il a fait emprisonner. Il a fait emprisonner, parce que le code du travail, ça rigolait pas à l'époque, il fallait pas déconner avec les mecs du MEDEF. Et voilà, donc il s'est pas laissé abattre, il a composé 46 chorales comme ça pendant sa détention. C'est vrai que pendant tous ses potes, voilà, levé de la fonte, et ben lui en tôle, voilà, il grattait, il écrivait des morceaux.
Combien de temps il est resté en tôle ?
Il est resté pendant un mois. C'était quand même assez.
Donc il a écrit 46 heures
en
un mois,
ça va.
Ouais, ouais, c'est vrai que c'était vraiment à l'époque.
Bon, ratio, quoi. C'est ça.
Ouais. De la prison, quelqu'un a fait.
Écoutez, moi j'attends, ça devrait plus tarder.
Peut-être.
Non, de garde à vue.
Deux opportunités. Ah, de la garde à vue, Pierre Thévenot.
Oui, oui, oui.
Ah, c'est bien ça.
Non, mais rien, bourré, piquer des gilets de sauvetage sur un bateau.
Oh, quelle nullité.
Tu en as profité pour écrire des chœurs.
Oui. Ben non, j'ai décuvé pendant ma garde à vue.
Question suivante.
Extraordinaire.
On reconnaît le morceau Wax, évidemment, ce morceau.
C'est antisocial, mais...
Antisocial, articulé comme un salaud par le chanteur d'Anthrax, ce groupe de trash new-yorkais. Et donc, vraiment, on sent qu'ils font vraiment du mot à mot. Il écrit des syllabes sur une lettre et on sent, sur une feuille, on sent vraiment qu'il ne sait pas du tout ce qu'il est en train de chanter. Mais on sent qu'il voulait quand même la chanter en français parce que ça a été une mode vraiment... de beaucoup d'artistes étrangers de vouloir chanter des chansons en anglais, en français, parce que pour le côté poétique et tout ça, pouvez-vous me dire justement, bah c'est vrai, le côté poétique, on adore, là, on entend la poésie quand je parle, on entend Antisocial, You're Losing Your Son Frère. Le morceau, donc, pouvez-vous me dire le nom de l'homme politique, alors là, vous êtes là, mais il n'y a aucun rapport avec le morceau qu'on vient d'écouter, mais justement, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, qui a fait passer une loi qui a obligé la France et les radios françaises à diffuser 40% de chansons en français en 1996.
Jacques Toubon.
C'est Jacques Toubon, c'est la bonne réponse de Pénélope Bagieux, effectivement.
Bravo.
Tu veux bien me mettre mon point, s'il te plaît ?
Jacques Toubon, c'est toi qui l'as dit aussi ?
Non, mais j'avais un point.
Ah, c'est vrai qu'elle avait un point.
Voilà, tôt,
je crois qu'il a arrêté de compter il y a 10 minutes.
C'est la bonne réponse. Oui, pour Florence, mais de toute façon, c'est un peu fichu, de toute façon. C'est la bonne réponse, effectivement. Jacques Toubon, qui en 1996 avait dit voilà, il faudra que maintenant il y ait tant de chansons françaises qui passent, parce que sinon on ne comprend pas les paroles et on a envie de bien comprendre les paroles. Et c'est vrai que cette initiative de beaucoup d'artistes étrangers de vouloir chanter en français, ça n'a pas toujours été très heureux. Je sais pas si vous vous souvenez de cette chanson qui s'appelait Le Brio.
Bonjour les guitares. Attaquez les tambours.
Alors, faut savoir, parce que je me suis fait avoir tout à l'heure. Elle le fait très très bien, Pénélope.
Ah, c'est
elle
vrai.
Est fan de
c'est
ce morceau.
Le
elle le fait très très bien.
Non. Moi, je préfère le rack. C'est toi qui le fais.
Qui fait.
Faire le rack. Ah, c'est classique.
C'est vrai que. Et donc, c'est vrai que Pénélope, vous imitez la chanson.
C'est surtout lui. Vous imitez. Et ils avaient repris. Ah non, c'est. Non, rien à voir. C'est les Presidents qui a repris. Ça plane pour moi.
Exactement. De Plastic Bertrand. Mais il y a aussi beaucoup d'autres artistes, même des beaucoup plus connus, qui ont essayé de chanter en français. Souvenez-vous de cet extrait de la version française de I Just Can't Stop Loving You par Michael Jackson qui a essayé de chanter en français.
Mais non.
Ce que je ressens, personne ne comprend. J'aime ça, c'est bien près de toi. J'en perds ma fierté. Tu ne veux plus toucher. La vérité pour moi, c'est la vie.
Je ne veux pas la fin de nous.
Il était meilleur en pédophilie, hein.
Je ne veux pas la fin de nous.
C'est pas en même temps le seul Michael Jackson à avoir essayé de chanter en français. J'ai découvert cette artiste coréenne qui s'appelle Jo Hae Ryun essayer de reconnaître le nom du morceau français que nous reprend cette artiste coréenne.
S'il te plaît, c'est une nuit de folie.
Mais y a pas de point, je crois.
On va se concentrer.
Y a pas de point.
On se concentre sur l'articulation. D'un banc de police.
Si vous avez vu le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper, elle dit des yeux qui font baiser les miens et puis elle dit un rire qui se pose sur sa blouche. Il faut vraiment
dans le film de
le rire qui se pose sur sa blouche.
Ah bah oui, effectivement. Voilà, elle aurait pu rentrer effectivement aussi dans le cadre de cette question. Donc le point est attribué, je crois, à
ouais, on est toujours sur Toubon.
À Jacques Toubon, hein. Évidemment. Ouais. On a été sur la question Jacques Toubon. On passe tout de suite à la question suivante.
Un peu plus de sang sur les doigts, Mais c'est ça le paradis. Si tu vois.
C'est une pub pour la cup.
La couleur est verte gris.
Non, rien de
sang à cracher. Mais petit, c'est beau la vie. En dedans, les gens sont cachés. La nuit, tous les chats sont gris.
Alors. Non, alors c'est pas Mat Matin. On écoute un extrait de Blancas. De Châteauroux, exactement. Alors
comme
ça, il faut être à la fois calé en chanson et en géographie française.
Uniquement en Berry.
Ah, parce que vous êtes du Berry.
J'adore le Berry.
Ah, ok. Alors exactement, de Châteauroux ou d'Issoudun, enfin de ce coin-là.
Oui, exactement. Issoudun, le chanteur, je crois.
Et donc c'est un morceau de Blancas, donc conduit que ce groupe par les deux frères Ledoux qui s'appellent Guillaume et Johan et qui ont apparemment été auparavant membres d'un groupe qui s'appelait Zéro de Conduite il y a bien longtemps, avec lequel ils avaient d'ailleurs fait la première partie des Clash au Bataclan. Et ils ont eu une carrière avec leur septième album sorti cette année. Est-ce que vous êtes capable de me dire l'autre métier, parce qu'apparemment, bon voilà, quand on est dans Blancas, c'est bien d'avoir un métier aussi. Johan Ledoux de Blancas a un autre métier à côté. Est-ce que vous êtes capable de me dire l'autre métier de Johan Ledoux de Blancas à côté?
Moi, je le tenterai.
Je sais pas, j'ai fromager. J'ai pas fait quoi, j'ai fromager. Je sais pas.
C'est le premier métier qui vous est venu.
Ouais, j'ai fromager.
Parce que je pensais qu'il avait la bonne réponse. Fromager. C'est vraiment, on a senti l'instinct. C'est pas fromager. Il n'y a pas de rapport avec le fromage.
Garagiste?
Pas de rapport avec les voitures non plus.
Est-ce que c'est un métier de commerce?
C'est un métier lié au commerce.
Est-ce qu'il le fait à Châteauroux, du coup?
Il le fait pas à Châteauroux, je pense, non.
Il est publicitaire.
Il n'est pas publicitaire.
Est-ce que c'est un métier où on peut télétravailler?
J'imagine qu'on peut télétravailler.
Ouais, il n'a aucune idée.
Non, si, mais bon, je ne sais pas en quoi ça consiste exactement au quotidien. Mais bon, vous avez...
Il est représentant en vente.
Il n'est pas représentant en vente. Alors, je vous donne un indice, ça n'a rien à voir avec la musique.
Oh, il fait du marketing. Ouais.
Il ne fait pas du marketing.
Est-ce que c'est quelque chose où il travaille avec ses mains?
Non, enfin, je pense que les mains, on a toujours un peu besoin dans la vie quand même, donc je sais pas.
Oui, c'est très bien ce que
je veux dire. C'est pas un métier manuel.
Non, c'est pas un métier manuel.
Il est comptable.
Non.
Et c'est en rapport avec la vente. Bah, il est vendeur.
Ah, c'est en rapport avec la vente.
Il est pas vendeur, il est.
Il est acheteur.
Il est acheteur.
Il est commissaire priseur.
Non, il est acheteur.
Commissaire priseur.
Alors, on se rapproche.
Il est brocanteur.
On se rapproche.
Antigaleriste.
Il est acheteur, mais pour une émission de télé.
Acheteur pour l'émission de Sophie Davant, là.
Sophie Davant.
Affaire conclue.
Affaire conclue.
Ah là là, le
ça. Affaire conclue. Sophie Davant, bonne réponse de Pierre Thévenoud. Voilà. C'est exactement, il fallait la trouver celle-là, vraiment, c'est marrant, c'est la première réponse que je suis hyper content que vous trouviez.
C'est vrai, ça se voit.
Ah ouais, parce que je pensais vraiment que vous la trouveriez pas, et effectivement, je vous ai bien guidé, faut dire que je vous ai bien guidé, j'étais vraiment un bon guide sur cette question.
C'est pas un point mérité.
Est-ce que tu veux t'octroyer le point, Thomas? On te
Pierre
le donne, vraiment.
Nous, je vais prendre un bout de fil tout à l'heure.
C'est là, l'ennemi.
Non, mais
j'ai un point de plus.
Exactement. Donc, voilà.
Sachant qu'on va certainement, avant la fin de l'émission, les mutualiser.
Ah, on a le droit.
On a le droit de mutualiser les flûtes. Donc voilà, c'est une émission. Alors vous connaissez Affaire conclue. Moi, donc c'est vraiment l'équivalent de Storage Wars. Mais je sais pas si vous regardez Storage Wars.
Ouais.
C'est sur les chaînes du câble. Tu sais quand tu vas 37-38 là, et que là vraiment il y a des Américains devant des trucs.
Des
ils sont là. Ouais, je vais acheter. Il y a une machine à coudre là. Je suis ça vaut une fortune. Et puis ensuite on leur dit ah non, ça vaut 10 $.
Mais c'est pas une flûte.
Non, c'est pas du tout ça.
Bah Storage Wars, c'est à des occasions quoi. C'est un truc de bon compteur.
Si tu veux lancer le débat, Storage Wars, si c'est bien le truc auquel je pense, c'est des gars qui rachètent des box de gens qui ont été
des acheteurs.
Ils savent pas ce qu'il y a dans la box.
Ouais.
Donc après, une fois qu'ils achètent la box, ils ouvrent et ça se trouve il y avait
après,
un carton
déçus.
Vide ou ça se trouve il y avait des lingots d'or.
C'est
alors
ça.
Que dans Affaire conclue,
ouais.
Non, parce que je vais te niquer ton truc. T'as faux. Affaire conclue, c'est des gens qui arrivent, c'est Monsieur Tout le Monde qui arrive avec genre un tableau que papy il avait acheté il y a 50 ans.
Ouais.
Et là ils viennent le revendre, mais les acheteurs savent déjà ce que c'est. Il y a un expert qui a déjà expertisé le truc et tout. Donc ils achètent pas au hasard.
En tout cas, ça lui tient à cœur.
C'est la même chose.
Ça lui tient à cœur.
Le chanteur de Blancas donc achète le tableau.
Alors,
pour l'émission.
Écoute, il est acheteur pour Affaire conclue. Je vais commencer à chercher la petite bête. voilà. En tout cas, c'est un métier de gars qui chine.
Voilà.
Est-ce que vous utilisez d'ailleurs le verbe? Est-ce que vous faites partie de ces gens énervants qui utilisent ce verbe chiner? Oh, écoute, je l'ai chiné dans un vide-grenier, là, vraiment. Ou même pour les disques, pire, les gens qui disent je l'ai digué. Parce qu'avant, on disait, ce disque, je l'ai trouvé dans un brocante. Et maintenant, les gars, ils disent je l'ai digué.
Je l'ai digué, quoi.
Et vraiment,
c'est un digueur.
On les fréquente pas trop, les gens.
On les fréquente pas trop. Franchement, on leur casse les jambes. Voilà, en tout cas. cas, eh bien, c'est toujours Pierre Thévenoud qui a bien rattrapé. Donc 4 points pour Pénélope, 3 pour Pierre et 2 égalités pour Wax et Florence Mendes. Je vous propose d'écouter tout de suite un deuxième morceau. Et ce morceau, je l'adore. C'est un morceau de Young Fathers qui s'appelle Rice. Donc c'est un morceau de jeune père qui s'appelle Ri. Et on l'écoute tout de suite, c'est sur France Inter.
Qui veut gagner la flûte à bec ? Thomas VDB.
On a reconnu Born in the USA à l'instant, évidemment, de Bruce Springsteen, joué la flûte par l'orchestre de Radio France, notre flûtiste d'orchestre de Radio France. Je rappelle les scores avec mes invités de Qui veut gagner la flûte à bec. 4 points pour Pénélope Bagieux, 3 points pour Pierre Thévenoud, 2 points pour Wax, 2 points pour Florence Mendes. Je rappelle également que vous pouvez intervenir sur Twitter avec le hashtag flûte à bec, FLUTEABEC. Et je propose de passer à la question suivante. Alors vous allez entendre, quand le chanteur il commence à chanter là dans le morceau qu'on va entendre, il fait un petit peu le même bruit que moi le matin quand je me lève. Donc nous sommes en train d'écouter un extrait de Skinny Puppy,
du dernier album de Grégory Lemarchal. Non, pardon, c'était pas bien.
Alors effectivement, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter en plus. Skinny Puppy, c'est un groupe canadien de musique industrielle et post-industrielle fondé en 1982 à Vancouver. Il est considéré comme un des groupes importants et influents du genre électro-industriel, vraiment des musiques un peu qui font... On a l'impression qu'ils tapent dans des bidons, vraiment, et qui sont très en colère dans une usine. Et en 2014, ce groupe a porté plainte contre le gouvernement américain en lui réclamant des droits d'auteur. Quelle est la raison pour laquelle le groupe a porté plainte contre le gouvernement
2014.
Américain en 2014?
Donc encore...
Qui a buzzé?
C'est moi. La musique a été utilisée dans un spot de prévention sans leur autorisation.
Dans un spot de prévention?
Dans un spot sans leur autorisation, un spot gouvernemental.
Non. Alors, disons que Est-ce que vous avez appelé une vidéo, genre une vidéo
un truc électoral
ouais. Non.
Est-ce que c'est comme Metallica parce que c'était passé à Guantanamo?
Bonne réponse de Pénélope Bagieu. Exactement. Il faut savoir qu'après la révélation par un gardien du camp de Guantanamo, que la musique de Skinny Puppy était utilisée soi-disant pour déstabiliser les détenus, le groupe a décidé de réclamer 666 000 dollars d'indemnité au département américain.
Est-ce qu'ils les ont eu?
Tout un symbole.
Alors je ne sais pas s'ils les ont eu.
Mais
c'est vrai qu'il y en avait. On leur souhaite. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup des artistes qui ont été utilisés. Il y avait Rage Against the Machine, Metallica, Queen, Eminem et même
Christophe Maé.
Metallica, ils étaient fiers. Ils avaient dit.
Ils étaient fiers.
Ouais, ça fait chier, mais ouais.
C'est horrible.
Oh, okay, en tant que patriote.
Christophe Maé, la Convention Genève l'a interdit. Elle a dit non, Christophe Maé, c'est tous ses procureurs. On ne peut pas lui faire.
C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'en France, on a pas mal de sons à leur donner à Guantanamo.
Peut-être, tu remets du Vianney, les mecs, ils craquent.
Brûlé.
Non, non, je parlerai.
Voilà. La voix, c'est chante le blues. Alors sortez-moi de là. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est flatteur? Est-ce que c'est flatteur quand on est musicien d'apprendre que... Est-ce que, par exemple, ça vous ferait plaisir de vous qu'on vous dise à Guantanamo, je peux dire, on les force à lire les BD de Joséphine, et les gars, forcément, ils avouent direct. Hein, ils avouent direct. Non. Voilà, donc très bonne réponse de Pénélope Bagieu, effectivement, c'est parce que la musique de Skinny Puppy a été utilisée à Guantanamo.
Faut toujours emmerder les gens qui veulent avoir raison. Voilà une tactique infaillible, la position de repli suprême. La seule véritable force de votre San Antonio, c'est qu'il emmerde d'instinct et profondément, avec une rare ferveur, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui.
Le morceau qu'on est en train d'écouter s'appelle « J'aime ou j'emmerde ». Et il introduit l'album qui s'appelle Déconorama, un album chanté par l'écrivain Frédéric Dard, plus connu sous le pseudonyme de San Antonio, album sorti en 1969. Et ce morceau, il apparaît sur les compiles Louise, qui ont été publiés par le label Born Bad, qui réédite énormément de pépites en français des années 60-70. On a reçu il y a 2 ans le meneur du label Born Bad dans l'émission. Alors, question, un autre écrivain assez célèbre, a également commis un album chanté sous son nom en l'an 2000 sur le label Tricatel de Bertrand Burgala. Pouvez-vous me dire le nom de cet écrivain français assez célèbre?
Est-ce que c'est Houellebecq?
Oui.
C'est une bonne réponse de Pénélope Bagieu, ça devient...
C'est une victoire.
Alors, excusez-moi, je veux pas balancer, mais sur l'écran qui est marqué devant moi, il est marqué Michel Houellebecq, la flûte à bec. Il y avait la réponse sur l'écran.
Alors, il y a
mon écran, il est éteint.
Putain.
Alors, apparemment, on a un écran
même pas vu que la réponse
sur lequel les réponses sont données. Et en plus, tu n'as même pas pensé à la donner, la réponse, Florence.
C'est ça qui est quand même trop honnête. Pas les autres réponses,
tu veux juste... pas vraiment cette flûte, je crois.
Bah non, moi je suis au-dessus de vos pathétiques considérations matérielles. Et vraiment, moi je suis dans l'éther déjà, je suis un niveau au-dessus.
Tu ne viens manière, que pour le pur plaisir.
On a presque perdu déjà.
Ah ben là, je pense que vraiment Pénélope vraiment
ça
arrive.
Ça me fait chier d'avoir gagné avec Houellebecq.
Très bientôt à la victoire. Michel Houellebecq qui a fait Facebook. On entend en ce moment les pics de pollution.
Tu as bien fait de prendre.
Ça, c'est Michel Houellebecq qui chante.
T'en es nul, on a la réponse, mais là.
Peut-être, j'avais pas vu.
Moi non plus.
Donc cet album, il était sorti sur le label Tricatel de Bertrand Burgala. Tricatel qui tirait son nom de l'entreprise de
L'Aile
ou la Cuisse, tenue par Julien Guillaumard, qui est le méchant dans L'Aile ou la Cuisse. Et Michel Houellebecq, donc qui voilà enregistré cet album. Michel Houellebecq qui a un peu lâché la musique. C'est vrai que cette année, il a quand même eu une actu un petit peu plus dans un autre univers. Hein, vraiment, on a vu des images où vraiment, il était limite hagard, vraiment hagard dans un lit à Amsterdam où il venait de faire gagner une fille à un jeu qui s'appelait Qui veut souffler dans la flûte à Houellebecq. Hein, je pense que c'était
pas mal. Tu devrais être humoriste, Thomas.
Ah, franchement, je vais y réfléchir. On enchaîne. Alors on écoute un morceau qui est sorti sur le label, enfin on écoute Rire Wax, et on écoute aussi un morceau qui est sorti sur le label Tamla Motown, un des labels américains les plus importants de la musique populaire noire américaine, fondé par Berry Gordy à Détroit, et qui a lancé les plus grands artistes de la musique noire américaine, dont on écoute tout de suite un petit medley.
The right hand.
On va dire que c'est un medley de deux titres. Voilà. Donc c'est quand même, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Et le morceau qu'on a entendu donc en intro qui s'appelait Get Ready. Et ce morceau Get Ready publié en 1969, enregistré par le groupe Rare Earth. Quelle est la particularité? Donc Get Ready qui a été repris par des tas d'artistes aussi aux États-Unis. Quelle est la particularité de ce groupe dont la carrière durera une dizaine d'années? Donc le groupe Rare Earth sur le label Motown.
Ils sont tous non-voyants.
Non.
Ils sont tous sourds.
Non. Merde. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est marrant, c'est comme tous... fromager tout à l'heure. J'étais là, ah, il a la réponse. Pas du tout.
Faut y aller. Est-ce qu'ils sont tous de la même famille ou un truc qui se rapproche de ça?
Ils sont tous... Quelque
ils
chose.
Sont tous quelque chose.
Ils sont tous quelque
ils sont
chose.
Tous, ils ont un point commun fort.
Ils ont un point commun très fort.
Ils sont tous de la même ville.
C'est physique.
Ils sont tous noirs.
Non.
Ils sont tous métis. Ils sont tous blancs.
Ils sont tous blancs.
Boum.
C'était la bonne réponse de Florence Mendes, qui vraiment. En même temps, c'est vrai que si on dit toutes les réponses qui nous passent par la tête,
vous remarquez qu'à chaque fois que je gagne, ils minimisent. Ils minimisent. Hein, vraiment, c'est.
Ils sont tous blancs. C'était un peu les Johnny Clegg de la soul. Exactement, les Rare Earth avec le morceau donc Get Ready qu'on vient d'écouter à l'instant. On arrive à la fin de cette émission. Quoique non, je pense qu'on va quand même avoir le temps de poser une dernière question, si vous le voulez bien. On écoute le dernier extrait. Donc là, vous avez reconnu Daft Punk, évidemment, avec le morceau Around the World, qui dure 7 minutes 10. C'est pas la question que j'allais vous poser, combien de temps dure le morceau.
Dans mon dernier rapport sexuel.
Bah, 7 minutes 10, exactement, c'est vrai, j'étais là. alors, donc je sens que c'est encore une question que je vais dire beaucoup de fois, plus, moins, moins. Mais pouvez-vous me dire le nombre de fois que la phrase Around the World est prononcée dans la chanson Around the World de Daft Punk?
68 fois.
Plus.
87.
Plus.
102.
Plus.
124.
Plus.
250.
Moins.
287.
219.
Pour les gens qui écoutent, c'est un régal de moment de radio.
219.
Moins.
200.
Moins.
202.
197.
Moins.
170. 170.
Moins.
165.
Moins.
159.
159.
159. 158.
157. 158. 157. 154.
C'était vraiment
la question. C'est le juste prix. C'est vraiment le juste nombre de fois. C'est exactement comme le juste prix, mais il faut trouver le nombre de fois qu'ils disent Around the World.
Est-ce que c'est toi qui as compté?
Oui, c'est ça, il y a un blaireau qui a compté.
Non, j'ai tapé nombre de fois.
Moi, je demande qu'on vérifie.
Tu vas sur nombredefois.fr et ils te disent le nombre de fois de tous les trucs que tu cherches. Exactement, donc c'était la bonne réponse. Un point de plus pour Wax, mais je crois qu'on va arriver déjà, ça y est, on arrive à la toute fin de cette émission. Et si je compte les points, eh bien ça fait exactement 6 points pour Pénélope Bagieux, 4 points pour Wax, 3 points pour Pierre Thévenoud et 5 points pour Florence Mendes qui a fait une sublime remontada. Nous avons le plaisir d'attribuer cette flûte à bec à Pénélope Bagieux qui pourtant n'a pas d'actu. Elle a pas d'actu, mais elle a une flûte. Elle a une flûte à la place de l'actu.
Je suis honorée de souffler dans ta flûte.
Vous savez qu'elle peut vous jouer un truc hein, pour
oui.
La fin.
Ah,
mais c'est vrai.
Elle sait vraiment jouer de la flûte, c'est une flûtiste. Vraiment.
Est-ce qu'elle le fait aussi bien que l'imitation de la meuf du Brio tout à l'heure? Parce que vraiment, c'est... Alors. La collégiale.
Je sais pas, il est bon ton café.
Le café, il est bon ton café. Jacques Vabre. C'est Jacques Vabre. C'est le tube de Jacques Vabre. Merci Pénélope.
C'est un conservatoire, les mecs.
Eh bien, on a bien entendu à l'instant. Merci Pénélope Bagieux, notre grande gagnante, d'être venue sans actu, mais qui repart avec une flûte. Bravo pour vos œuvres. Wax, merci. Je rappelle que vous êtes la semaine prochaine en concert au Francofolie de La Rochelle et qu'un nouveau single vient de sortir avec Pomme qui s'appelle Laissez-moi danser.
Reprise de Dalida.
Et c'est une reprise de Dalida également. Enfin, je dis également parce que c'est également une reprise, parce qu'on parlait tout à l'heure des reprises. Florence Mendes, vous jouez votre spectacle Délicate jusqu'à la fin du mois au Métropole, tous les mardis
à
Paris.
Et à partir de la rentrée, il me réembauche.
Et à partir de la rentrée, Pierre Thévenoud, avec votre spectacle, Pierre Thévenoud est marrant normalement. J'ai marqué, c'est le nom du spectacle.
Ouais.
Non, parce que j'ai l'impression que et c'est au Trianon. Mais est-ce qu'il y a des dates précises? Parce que j'ai pas réussi à trouver des dates.
Il y a avant à Paris, un peu en juillet, puis à la rentrée. Et Trianon, c'est en février. Et sinon, à partout en France, un peu la tournée
des Grands Ducs.
De toi là, de toutes les villes de France, quoi.
Très bien.
Mais t'es dans toutes les villes de certaines.
T'étais bon en promo.
Je suis le king de la promo.
Et ben. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. Je vous donne tout de suite maintenant la liste des gens qui ont participé à cette émission, sans qui elle ne sera rien. À la technique, il y avait Joël Fonferrier. Les questions ont été préparées par Thierry Dupin, Bruno Chétrit et moi-même, aidés de Romain Forgeor pour les relectures. Mathias Volant était à la réalisation. Oui, Jeanne Sarfati-Kermarek est notre attachée de production. Les virgules flûtées sont jouées par Joséphine Poncelin de l'Orchestre de Radio France. Notre programmateur est Djouba Kaoué, c'est vraiment une musicienne de l'Orchestre de Radio France. La flûte à bec, on la retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été avec nous cette semaine. Très bon week-end à tous. Salut.